souvent des personnes que je rencontre qui sont, qui ont vraiment des comorbidités, qui ont des strates et des strates de difficultés sur leurs épaules et qui continuent à nous faire des blagues, à rigoler par un petit regard ou par un petit geste. Voilà, elles gardent. Voilà, on sait au bout d'un moment qu'on travaille sur le lien social. Quelle que soit la difficulté de la personne, l'être humain garde à l'intérieur de soi la pépite de joie qui s'allume en fait, via la relation, quoi.
Bonjour et bienvenue à toi. Une fois par mois, je te propose de boire un verre avec une créatrice ou un créateur de liens inspirants. Je m'appelle Anne-Paul, je suis coach professionnelle, animatrice et formatrice. Je travaille pour les secteurs du social et de la solidarité sur les thématiques d'accompagnement, de connaissance de soi, d'engagement et de pouvoir d'agir. Après avoir travaillé pendant 8 ans auprès des personnes à la rue à Paris, j'ai décidé de me former pour accompagner les professionnels et les bénévoles de ces secteurs. Ces personnes donnent tout, voire plus au service des autres, et je crée des outils pour les soutenir dans leur mission. Maintenant que j'ai différemment la tête dans le guidon, je prends le temps de réfléchir à 4 sujets qui me passionnent. L'être humain, la relation et les liens, l'engagement et la solidarité. Alors j'ai décidé de partager mes découvertes avec celles et ceux qui mettent la création de liens au cœur de leur vie. On va vérifier ensemble si, comme je le sens depuis toujours, la relation est vivante. Aujourd'hui, à la carte, il y aura de l'expérience et la maturité qui va avec, des personnes âgées isolées, des bénévoles, des histoires de précarité, des histoires de liens et une recherche de sens. On parlera de l'isolement des personnes âgées, de la précarité, de la mort sociale, de l'aller vers, des fleurs avant le pain, de la limite de la blouse et des possibilités de la gratuité. Nous accueillons pour boire un verre Morgane Rivière, qui est coordinatrice aux Petits Frères des Pauvres. Bienvenue Morgane. Bonjour Morgane. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de podcast d'Osons la relation. En fait, je suis d'autant plus contente qu'on a été longuement collègues au Secours catholique et puis qu'on est aussi bonnes amies. Donc ça me fait plaisir de commencer ce projet avec toi. Je te propose pour commencer que tu parles de ton parcours.
Ouais, pas de souci. Salut Anne-Paul. Moi, donc, je m'appelle Morgane. Mon parcours, il est assez simple et assez compliqué à la fois. J'ai fait des études d'histoire, j'ai fait des études de droit et des études d'administration publique. Et puis finalement, pendant toutes ces études, à la fin, j'ai commencé à vraiment réfléchir et chercher le sens de ce parcours. Et au fur et à mesure de ma réflexion, j'ai trouvé le sens dans l'investissement associatif, qui était pour moi l'idée de travailler avec un objectif humain. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler dans des associations, petites ou grandes, dans des petites associations, voire des toutes petites associations. J'ai aussi travaillé dans des grandes associations, comme la Croix-Rouge, la Délégation catholique pour la coopération, le Secours catholique. Et aujourd'hui, je travaille aux Petits Frères des Pauvres. C'est une association de référence qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Je suis coordinatrice d'équipe de projet.
D'accord. Et ça, on va revenir dessus sur ce métier au fur et à mesure de l'entretien, de la discussion. J'ai une première question pour toi. Quelle est la dernière fois que quelqu'un a créé du lien avec toi et qu'est-ce que tu as ressenti?
Bah, dans mon métier, c'est génial parce que en fait, ça fait partie vraiment du cœur de mon métier de créer du lien avec les gens. Que ce soit avec des partenaires sociaux, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des personnes bénéficiaires, même si on ne les appelle pas des personnes bénéficiaires dans notre jargon. La dernière fois, c'était hier, j'ai une dame au téléphone. C'est une dame qui m'a été orientée par les services sociaux et on m'a dit, cette dame, elle n'a pas envie de visite. Le but de notre association, c'est de mettre en place des visites pour des personnes âgées isolées. On m'a dit, cette dame, elle n'a pas envie de visite. Il y avait des blocages, je ne sais pas lesquels. Et donc, je vais passer un coup de fil pour juste faire connaissance. Et en fait, au fil de la conversation, elle s'est ouverte vraiment comme une fleur. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle aurait vraiment envie de rencontrer des gens et que ça lui ferait vraiment du bien. Et du coup, voilà, c'était vraiment une richesse. J'en suis ressortie super légère et super joyeuse.
Oui, merci.
Dans ton parcours, tu dis que la dimension humaine est importante. Je sais qu'il y a un fil rouge qui est clair, qui est celui des liens et de la construction de la relation avec des personnes qui vivent la précarité. Pourquoi c'est si important pour toi?
C'est important pour moi parce que c'est tout simple, c'est très égoïste en fait. Moi, ce que je voulais, c'était pas me réveiller à 50 ou 60 ans en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et je voulais en fait me lever avec un objectif en me disant à la fin de la journée, bah voilà, j'ai été utile, il y a des choses qui se sont faites qui étaient intéressantes et j'étais utile à, voilà, au bien-être humain, juste des gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Mais en fait, très vite au fil de mon parcours, ça a été un petit peu un hasard, mais finalement, les associations dans lesquelles j'ai travaillé où je me suis le plus épanouie, c'était des associations qui proposaient du lien. Et du coup, au fil de mon expérience, j'ai travaillé autour de cette question du lien et de la relation. C'est peut-être un hasard, je ne sais pas, peut-être que j'aurais pu travailler dans des associations humanitaires en faisant plus de gestion de projet, avec des objectifs plus pratiques, plus matériels. Je ne sais pas si c'est un hasard dans la construction de mon parcours professionnel. Ce que je sais, c'est que ça m'a passionnée, mais qu'ensuite j'ai cherché à aller vers des associations qui avaient cet objectif-là de créer du lien et pas forcément être dans des choses plus pratiques. C'est important pour moi parce que pour moi, le lien social, c'est tout aussi important que les autres besoins humains qui fait qu'on est des êtres à part entière, qu'on est des êtres d'émotion, on est des êtres de sensation. Et finalement, être seul ou être coupé de la société, finalement, je pense que c'est une grande douleur. Et le fait de recréer ce lien, ça crée beaucoup de choses et ça facilite aussi l'intégration et l'insertion des gens. Donc, je pense que c'est complémentaire à d'autres types d'aides, on va dire, plus conventionnelles et plus traditionnelles. Moi, j'ai travaillé avec différents publics. Aujourd'hui, je travaille avec des personnes âgées isolées, donc qui ont besoin de ce lien pour se reconstruire, se réinsérer et juste savoir qu'elles comptent pour les gens. Mais j'ai aussi travaillé avec des personnes en situation de rue et c'était la même chose. C'est des gens qui, dans leur désespérance, la désespérance de leur situation matérielle existait, mais la désespérance de leur situation sociale était beaucoup, beaucoup plus importante et les emmenait parfois vers l'addiction, vers la folie, vers le grand désespoir, vers le suicide. Donc, on s'est rendu compte, on se rend compte quand on travaille sur ces questions-là que c'est vraiment primordial. Et puis, j'ai travaillé aussi avec des communautés roms, c'est des gens qui ne vivent pas forcément l'isolement, ne sont pas forcément seuls parce que la question familiale enfin, la famille est très, très importante et les liens familiaux sont très serrés dans ces communautés. Mais il y a aussi une question d'isolement, il y a aussi une question de lien, pour le coup, à la société, des gens qui sont complètement coupés du reste du monde. Et quand on renoue les liens avec l'école, avec les institutions, avec les citoyens, par exemple par la langue ou par des activités, là, on se rend compte que, bah, voilà, que ce sont des besoins aussi qu'ont ces personnes et qui participent à leur épanouissement.
J'ai lu en préparant l'interview que sur le site des Petits Frères des Pauvres, vous constatez qu'une personne âgée sur quatre souffre d'isolement, et ça m'a paru énorme. Et puis vous dites aussi que parmi ces personnes-là, 300 000 sont en état de mort sociale. Et ce terme mort sociale est venu vraiment me frapper, et j'aimerais bien comprendre ce que vous voulez dire par là.
La mort sociale, c'est tout simple. La mort sociale, c'est être assis sur son canapé, tout seul, toute la journée, toute la nuit, toute la semaine, tout le mois et toute l'année, sans voir personne et sans rien faire. C'est-à-dire tout ce qui fait notre humanité, tout ce qui fait la joie du quotidien, tout ce qui fait le plaisir de vivre, en fait, n'est plus là. Et c'est vrai qu'une personne sur quatre âgée et isolée, le grand âge, ça favorise ça parce que finalement, la famille s'éloigne, les enfants partent vivre ailleurs, même des fois en région parisienne, tout simplement, ils sont loin et c'est compliqué de venir rendre visite à sa famille à cause des transports. Les amis décèdent au fur et à mesure, le conjoint parfois s'en va et on se retrouve au fur et à mesure comme ça, isolé, avec un autre facteur d'isolement qui est la perte de l'autonomie. Quand on ne peut plus sortir de chez soi, finalement, tous les petits contacts du quotidien qui font que bah, on a passé une bonne matinée parce que on est sorti, on a vu les arbres pousser, on a dit bonjour à son boulanger, on a regardé les enfants dans les poussettes. tous ces petits bonheurs que nous, on ne remarque même pas, mais qui font qu'on passe une bonne matinée et qu'on est rempli, entre guillemets, de la vie, disparaît quand on ne peut plus sortir de chez soi. Et après, un autre facteur d'isolement, et pas des moindres, c'est la perte finalement de facultés, on va dire, basiques, physiques. Par exemple, la vue et l'audition qui font que même quand on ne peut pas sortir de chez soi, on peut se retrouver avec les petites activités qu'on pouvait faire encore à la maison du quotidien, faire la cuisine, lire un petit livre, regarder la télé, faire des mots croisés. Tout ça, ce n'est plus possible. En fait, on se retrouve finalement enfermé dans soi-même avec plus aucun horizon. Et à ce moment-là, on se retrouve isolé, voire très isolé. Et la mort sociale, c'est ça. C'est les gens qui, pour le coup, n'ont plus aucun contact. Sauf ils ont des besoins, on va dire les services sociaux, ou des personnes qui vont être payées pour venir les voir, des auxiliaires de vie ou des infirmiers à domicile. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de problème de santé ou administratif et qui sont vraiment, vraiment, vraiment seules.
C'est intéressant ce que tu dis là, parce que, enfin, ce que tu relèves, c'est que même si on peut avoir des visites de personnes qui sont payées pour venir nous voir, parce qu'elles sont des soignantes ou des acteurs du social, mais manquer de liens malgré tout.
Hier, j'étais dans un EHPAD. On va monter un partenariat avec eux pour mettre en place des visites à des résidents. Il y a une dame qui me dit, mais de toute façon, il y a la limite de la blouse. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, mais moi, c'est dingue comme je me rends compte que nos résidents, on a beau les voir tous les jours, ils ne vont pas dire la même chose à des gens qui viennent et qui n'ont pas la blouse. Et en effet, le fait soit d'être issu d'une profession médico-sociale ou tout simplement d'être payé pour venir voir la personne, ce n'est pas la même qualité de la relation que quelqu'un qui vient comme ça, gratuitement, les mains ouvertes, hein, pour passer du temps pour la personne parce qu'elle va s'enrichir autant qu'elle va donner du bon temps à la personne âgée qu'elle va visiter. Nous, nos bénévoles, ils sont super contents et voilà, ils reçoivent autant qu'ils donnent.
Oui, c'est ça. On peut se mettre à l'aise là-dessus, quoi.
Ouais, complètement. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, voilà, chacun sait pourquoi il est là. Et on en parle souvent de nos motivations, hein, en tant que bénévole ou en tant qu'acteur du milieu social. On sait que ce n'est pas que faire du bien comme des gentils messies. C'est aussi pour recevoir des choses. Moi, je parlais du sens de mon parcours professionnel au début de l'entretien. Voilà, on sait que c'est pour nous aussi qu'on le fait. C'est un partage. Et ce partage, il est beaucoup plus fort quand il s'agit justement de créer du lien. Après, il y a des bénévoles à qui ça ne va pas. Moi, des fois, j'ai des bénévoles qui s'en vont. Alors, c'est très rare, mais parce qu'ils n'arrivent pas à quantifier l'utilité de leur action. Ils me disent, si je distribuais des colis ou des repas, je saurais que voilà, ce soir, j'ai distribué 120 repas, j'ai rempli 120 ventres. Et quand je discute avec quelqu'un, ou quand j'échange, ou quand on rigole, ou juste quand on se tient la main, j'ai du mal à voir l'utilité. Puis il y a des gens pour qui c'est vraiment l'inverse. Ils vont venir pour rechercher cette mission de lien, d'échange. Voilà.
J'ai lu aussi qu'au petit frère des pauvres, vous dites, alors que vous allez visiter des personnes qui sont en situation de précarité, dites les fleurs avant le pain. Et ça, ça m'a aussi interpellée. Qu'est-ce que vous voulez dire par
là? Les fleurs avant le pain, c'est une phrase choc qui existe depuis... depuis les années 40, depuis la création de l'association, comme quoi la personne qui a créé les petits frères des pauvres, Armand Marquisé, pour ne pas le citer, avait déjà saisi vraiment, vraiment toute la philosophie de l'association dans cette phrase. Les fleurs avant le pain, ça veut dire le cœur, l'envie de passer un moment ensemble, de se connaître, d'être là l'un pour l'autre avant le don matériel. Dans le milieu associatif, surtout quand on travaille autour de la question comme ça de la relation, on se rend compte que le don matériel, des fois, peut déstabiliser la relation aidant-aider. Une relation aidant-aider, elle est toujours, par définition, un petit peu inégale. L'aidant va être un petit peu, entre guillemets, tout le temps au-dessus de la personne aidée. On vient pour donner aux pauvres petits... ou à la personne pauvre qui a besoin d'aide, et on vient un peu comme ça avec cette surpuissance, et souvent le don matériel, ça crée ça. Et du coup, le fait de s'exonérer un peu de ce don matériel et d'être là pour la personne, ça permet de recréer une relation qui va être un petit peu plus d'égal à égal. Vraiment, Marcel, il voulait vraiment ça, il voulait vraiment qu'on soit là pour les personnes. Ensuite, c'est compliqué parce que quand on travaille avec des personnes démunies, Les personnes sont démunies de relations sociales, mais parfois, elles vont être aussi démunies d'autres choses. Démunies d'un toit, démunies d'un bon repas chaud, démunies de vêtements, démunies d'une situation administrative clarifiée. Et dans ces cas-là, ce n'est pas toujours facile de faire passer les fleurs avant le pain, c'est-à-dire de faire passer la relation humaine avant le besoin matériel. Nous, aux petits frères des pauvres, on a tendance à avoir envie de renverser la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est cette pyramide des besoins humains qui dit que le besoin fondamental de la personne, c'est de manger, de boire, de se vêtir, d'avoir un toit sur la tête, et ensuite, comme ça, qui monte vers des besoins plus relationnels et voire plus spirituels. Nous, aux petits frères des pauvres, on dit souvent que Armand Marquezet a renversé la pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'il dit que voilà, le fondamental de l'être humain, c'est d'avoir besoin de relations humaines et d'avoir besoin d'amour, en fait, tout simplement, pour se construire humainement et pour être heureux, finalement. Mais c'est vrai que parfois, il ne faut pas oublier non plus le pain. C'est-à-dire qu'on peut être dans la capacité de créer une relation avec une personne parce que, tout simplement, elle crève de faim et que ce n'est pas sa priorité aujourd'hui d'être dans la rencontre parce que l'urgence, elle est là. Pareil pour des démarches administratives. Deux jours, j'ai rencontré une personne âgée dans un foyer logement et cette personne, c'était impossible pour elle de démarrer la rencontre parce qu'elle est venue avec une valise remplie de papier. Elle était dans l'angoisse de son expulsion et je ne pouvais pas en fait instaurer le lien. Donc, je pense que les deux missions sont complémentaires. Les missions d'aide matérielle, les missions d'aide administrative juridique et les missions de lien social. Et voilà, on fait tous un travail complémentaire.
Dans ton métier, il y a une grosse partie qui s'appelle l'aller vers. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Qu'est-ce que c'est pour toi l'aller vers?
L'aller vers, c'est difficile. L'aller vers, c'est difficile dans mon métier auprès des personnes âgées isolées. C'est un concept qui est hyper intéressant, qui est hyper important. C'est un concept qui explique qu'une personne qui a des besoins, des fois, se remplit tellement vers elle-même qu'elle ne va plus exprimer ses besoins et elle va rester, entre guillemets, dans son coin. Et donc, c'est important d'aller vers elle. Quelqu'un qui passe sa vie en services sociaux ou dans les différents centres d'activité, etc. Bon, elle est au centre, elle connaît tous les acteurs sociaux de la ville. Voilà, finalement, elle va avoir les ressources pour s'occuper d'elle-même. Quelqu'un qui ne fait pas ça, qui ne fait pas cette démarche, elle aura du mal à être aidée. On le sait, hein, y a beaucoup de personnes qui ne demandent pas leur aide sociale ou leur ouverture de droits ou qui ne savent même pas qu'elles ont certains droits. Donc, c'est primordial d'aller vers. L'aller vers, c'est assez simple quand on parle des personnes en situation de rue. On les voit, elles sont quand même visibles, même si malheureusement, dans la société, les invisibles, je ne sais pas comment on dit. Du coup, même si notre société fait tout pour les rendre invisibles, aller vers avec une personne de la rue, ça va être voilà, s'arrêter sur le trottoir, s'agenouiller à son niveau, prendre le temps pour échanger avec elle. Aller vers avec les personnes âgées isolées, c'est difficile, elles sont chez elles, enfermées. Nous, on a quand même une difficulté à aller vers. Et ce n'est pas que nous, associations, c'est aussi les villes, les mairies, les municipalités, les acteurs sociaux et les institutions de manière générale. Elles ont du mal à aller vers ces personnes-là parce que pour les personnes âgées isolées, c'est un petit peu une fatalité. On est vieux, bah ça y est, on est tout seul et puis on attend assis sur notre fauteuil en regardant une question pour un champion. C'est difficile de les identifier et c'est difficile pour elles de savoir qu'elles peuvent, c'est pas une fatalité d'être seule et qu'elles peuvent venir vers nous. Et c'est difficile de se faire connaître à elles aussi parce qu'elles ont peu accès à des moyens de communication qu'on utilise, qui vont être les réseaux sociaux, qui vont être certains types de journaux. Heureusement, elles reçoivent encore le journal de la ville, qui est parfois le seul qu'elles lisent. L'aller vers peut être différent en fonction des publics qu'on va accompagner. Mais en tout cas, c'est très important pour essayer de ne pas laisser les personnes qui sont le plus en besoin de côté.
Oui, clairement. Quand on va vers, on a autant de chances d'être bien reçu que d'être mal reçu quand on n'a pas eu de lien encore avec la personne. Est-ce que tu as une histoire, une anecdote à partager sur une situation une fois où vraiment le lien a été difficile à construire?
Ah, ça, on en a plein, ouais. Moi, j'utilise souvent le mot apprivoiser avec mes bénévoles, hein. Je leur dis, il faut que c'est parfois une question d'apprivoisement. On a la chance avec les publics des personnes âgées d'avoir beaucoup de reconnaissance, d'avoir des remerciements. Enfin, voilà, c'est souvent beaucoup de chaleur humaine qui passe. Et les gens sont très preneurs, hein, quand on les prenne dans leurs bras, qu'on leur tienne la main, ils ont envie. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi, quand on est isolé, quand on est privé du lien, on se crée ses propres barrières, ses propres barricades. Ensuite, c'est plus difficile de rentrer en lien avec les uns et les autres. Et c'est cette question de la douceur dans cet apprivoisement qui est hyper important, cette manière de respecter la personne justement dans ces différentes étapes d'acceptation et de ne pas laisser tomber non plus. C'est-à-dire que nous, il y a des personnes qui nous disent non, on est obligé parce que c'est hyper important de respecter leur dignité et leur souhait d'accepter leur non, mais on peut leur dire bah, on est là, on est toujours là et on vous rappelle pour prendre de vos nouvelles. Et quand la personne, elle voit que fondamentalement, on est intéressé par elle, par sa situation, et ben finalement, elle va s'ouvrir progressivement. Ce n'est pas simple non plus d'accepter de l'aide parce que souvent, on se rend compte qu'il y a des gens aussi qui sont un peu férus de l'accompagnement social et qui ont passé beaucoup de temps dans les bureaux de travailleurs sociaux pour des résultats parfois très faibles. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, il y a des personnes... Qui sont juste dans la fatalité finalement de leur situation, souvent dans la dépression aussi. Et finalement, le lien, ça n'a plus trop de sens. Hier, la dame que j'avais au téléphone, elle m'a dit « Je suis devenue sauvage à force de déception et à force de douleur dans les relations que j'ai au monde. » Donc, en fait, il faut leur redonner confiance dans le fait que la relation, ça peut être quelque chose aussi de positif, de joyeux et de fort, en fait, au bon sens du terme.
J'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui m'a beaucoup marquée qui disait la relation, c'est une nourriture psychologique.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. La relation, c'est une nourriture psychologique, mais qui peut être aussi douloureuse que bienfaitrice. Donc, on est parfois face à des gens qui ont des parcours de vie difficiles. Une personne âgée, c'est une personne qui a 70 ans de vie derrière, des fois qui a grandi dans des situations complexes. Pas toujours, mais on est face à des gens qui ont pu avoir des vies difficiles, ou en tout cas, pour la moitié des personnes que nous on accompagne aux petits frères des pauvres qui sont en rupture avec leur famille, en conflit avec leurs enfants, ou qui ont eu des parcours de vie compliqués. Avec des non-dits, avec des décès, avec des violences intrafamiliales ou des choses comme ça. Donc, forcément, la relation humaine dans leur parcours de vie, elle n'est pas forcément toujours synonyme de choses très joyeuses. Mais pour autant, on reste des humains et les humains vont chercher la relation. Ils vont peut-être avoir du mal à l'instaurer. Ils vont pas forcément savoir comment se positionner à l'intérieur, surtout que voilà, ils savent pas forcément qu'on est là pour le lien, ils pensent qu'on est là des fois pour l'aide sociale justement. Et en tout cas, ils sont souvent, enfin la plupart du temps, les personnes vers qui on va sont partantes pour retenter l'aventure de la relation humaine.
Oui, c'est hyper beau.
Avec des fois des niveaux d'attachement qui peuvent devenir très forts. Donc là aussi, nous, notre travail d'accompagnement des bénévoles, ça va être justement de doser cette relation, pour pas
Oui.
prendre la place de la famille, pour pas prendre trop de place dans la vie de la personne âgée, cas où le bénévole déménage, pour que le bénévole puisse tenir dans la durée aussi, parce que c'est important d'instaurer la relation dans la fidélité et dans la durée. Ça, c'est hyper important.
Oui. Et je me dis là en t'écoutant qu'il y a, il y a vous créez du lien avec des personnes, on peut le dire comme ça, qui sont dans la dernière partie de leur vie. Après, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais j'imagine que vous faites des accompagnements de personnes jusqu'à la mort, soit parce qu'elles sont malades ou alors parce que justement la personne décède et du coup, de fait, le lien est coupé. Comment vous l'accompagnez, ça, comment ça se vit par les bénévoles du coup, ou est-ce que les personnes aussi parlent de ça?
Ouais, c'est vraiment important pour nous d'accompagner jusqu'au bout. Et ça, on le dit aux personnes âgées et aux bénévoles dès le début. Ça fait partie des grandes lignes directrices de notre association. On accompagne jusqu'au bout, sauf si la personne a envie d'arrêter. Le bénévole, il peut arrêter aussi, évidemment, mais l'association, elle, elle s'engage jusqu'au bout. C'est-à-dire que je me suis rendue il y a 2 ans à l'inhumation, enfin la cérémonie religieuse d'une personne âgée, et j'étais seule. J'étais seule devant le prêtre qui a fait sa cérémonie, et on était tous les deux autour du cercueil de cette dame. Donc, c'est des moments hyper forts, hyper déroutants. Mais oui, on accompagne jusqu'au bout. On met un point d'honneur aux fleurs, aux plaques, être là aux cérémonies quand les bénévoles peuvent, en équipe ou pas. Et puis, on tourne autour de cette question de la fin de vie. On tourne autour, même si finalement, au quotidien, on l'oublie. On passe des moments forts et joyeux, ou pas forcément joyeux d'ailleurs, on peut juste être dans des échanges différents. Mais oui, on va forcément aborder cette question de la fin de vie. Et souvent, ce que je disais tout à l'heure, les bénévoles, les personnes âgées vont être plus amènes à nous parler de leur fin de vie parce que justement, on n'a pas le lien fusionnel ou familial qui va faire que des fois, il y a des tabous autour de la mort. Voilà. Alors après, en tant que bénévole, il faut être prêt à pouvoir évoquer ces sujets-là. Mais souvent, justement, ce n'est pas quelqu'un de notre famille, donc on va finalement pouvoir en parler nous aussi de manière un peu plus libérée. Et puis après, notre boulot en tant qu'association, c'est d'accompagner les bénévoles justement dans ces questionnements, dans la réception de ces phrases qui peuvent être parfois dures. On a des gens qui nous disent « Moi, la vie, c'est fini, j'en ai marre, je veux me suicider, ça n'a plus de sens. » Voilà, donc ça remet aussi en perspective notre rôle, notre utilité, et on sait que voilà, on est là pour la personne, mais on doit respecter aussi là où elle en est dans sa tête et par rapport à sa relation à sa fin de vie.
Oui, bien sûr. Il y a aussi un enjeu de créer le lien, ça c'est sûr, et puis de recréer une dynamique. J'ai l'impression que vous proposez beaucoup d'actions collectives.
On essaye.
Bah là, en ce moment, c'est un peu complexe, bien sûr, j'imagine. En quoi l'action collective et l'aller vers, justement, sont aussi complémentaires et nourrissent ce lien social à créer ?
Nous, on construit la pyramide de la relation, d'abord avec la relation binôme personne accompagnée. Ça, c'est hyper important. On construit une base hyper solide. Donc, l'échange régulier, fidèle, la confiance qui s'instaure. Sans confiance, surtout avec ce public-là. Pas un public hyper foufou qui va se lancer en disant au bout de 2 semaines, j'ai envie de partir à la mer, je prends mes bagages, c'est parti. Voilà, ils ont souvent besoin d'être rassurés. C'est plus on vieillit, plus on a besoin d'être rassurés, d'avoir des repères. Donc, on construit vraiment cette base-là. Et puis ensuite, on emmène les personnes, en effet, à s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, ça peut être par des activités collectives que nous, on propose aux petits frères des pauvres. Ça peut être des ateliers, des après-midi avec des thés partagés, des visites, des sorties ou alors des vacances. C'est hyper important pour nous, les vacances. Ou ça peut être s'ouvrir vers l'extérieur, vers des choses que les personnes souhaitent, c'est-à-dire des projets un peu personnalisés. On essaie de voir vous, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est aussi une autre manière de s'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire, je ne sais pas, aller à Paris, par exemple, faire du tuk-tuk rue de Rivoli. On a une dame qui a vécu longtemps dans ce quartier. C'est ça, son projet. Elle a envie de retourner dans ce quartier. Bon, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a beaucoup de boutiques. Donc, on va l'emmener. En plus, elle a beaucoup de mal à se déplacer. Donc, voilà. Après, moi, j'ai connu des gens qui avaient pour projet voilà, d'arriver à retourner voir un spectacle parce qu'elle devenait phobique de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est s'ouvrir à l'extérieur, soit aux activités collectives avec d'autres personnes, soit juste à s'ouvrir à l'extérieur, à la ville, au monde tel qu'il est à l'extérieur. Et ça, c'est hyper important.
Oui, bien sûr. Et il y a dans le fait d'aller vers, il y a aussi quelque chose de sortir de soi, quoi, un peu.
Ouais, sortir de soi, sortir de la plainte, de la fatalité, de la tristesse des journées qui défilent et qui sont les mêmes tout le temps. Les gens qui partent en vacances avec les petits frères des pauvres, ils peuvent nous en parler pendant 6 mois, voire pendant 1 an après, mais toutes les semaines. C'est incroyable l'impact que ça a sur leur morale, sur leur envie de vie, sur leur vision qu'ils ont d'eux-mêmes aussi. C'est des gens qui pensaient plus être capables de pouvoir passer une semaine avec d'autres gens, qui pensaient plus être capables de pouvoir se remettre les pieds dans l'eau. Voilà. Et après, ils sont vraiment changés, vraiment fondamentalement. Et c'est pour ça que les vacances, ça a vraiment un impact fort, parce que ça lie aussi, ça, ça, ça se relie aussi à ce que les personnes ont vécu pendant leur vie. Donc, soit ça leur rappelle des vacances qu'ils ont passées avec leur famille, s'ils en avaient une, soit ça leur rappelle leur enfance, soit ça leur rappelle qu'ils ne sont jamais partis en vacances et que la vie n'est pas finie et qu'on est encore en capacité de faire des choses, même quand on est âgé. Et ça, c'est que possible parce que le lien de confiance, il est là. S'il n'y a pas de lien de confiance, c'est quasiment impossible de monter ce projet-là avec la personne.
Merci, c'est vraiment super vivant tout ce que tu racontes, vivant comme la relation en fait. Et ouais. Il y a beaucoup de... Oui, c'est très dynamique et c'est vraiment beau, ça donne envie d'aller construire ces liens, rencontrer ces personnes qui sont isolées. Il y a beaucoup de vie dans ce que tu dis, alors qu'en effet, on pourrait...
Mais c'est pas que la vie, elle n'est pas apportée que par l'association et par nous, quoi. On pourrait imaginer que nous, on est la pulsion de vie qui réanime la personne en face, mais la personne, en fait, elle a encore cette vie en elle. Oui, et même souvent, c'est elle, c'est les personnes âgées qui nous épatent aussi, parce que finalement, dans leur état, on ne serait peut-être pas aussi dynamique, ou on ne serait peut-être pas dans la même situation. Enfin, moi, j'ai souvent des personnes que je rencontre qui ont vraiment des comorbidités, qui ont des strates et des strates de difficultés sur leurs épaules et qui continuent à nous faire des blagues, à rigoler par un petit regard ou par un petit geste. Et voilà, elles gardent... voilà, on sait au bout d'un moment qu'on travaille sur le lien social, quelle que soit la difficulté de la personne, l'être humain garde dans l'intérieur de soi la pépite de joie qui s'allume en fait, via la relation, quoi.
Ouais. Merci, c'est très fort. Du coup, la vie quotidienne au travail, elle est faite de liens, que ce soit avec les bénévoles, enfin, que ce soit avec les personnes que vous accompagnez, que vous allez rencontrer, ou avec les bénévoles, justement. On sait, et tu l'as dit à plusieurs reprises, le lien, la relation, c'est pas... C'est à la fois de la joie, mais c'est pas que de la nourriture positive. Ça peut être parfois difficile et parfois c'est même complexe d'être dans une relation bonne, tu vois, sans dire positive ou voilà, mais juste être capable d'être en relation sans négativité ou sans conflit. Quelles sont tes habitudes pour te ressourcer?
Tu veux mes petits secrets? Oh là là. J'en ai plein, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, en fait, en tant que coordinateur, souvent on va être amené à gérer des difficultés. Donc, oui. Finalement, le quotidien, quand il roule, on n'a pas grand chose à faire et on vient pour éteindre les feux, éteindre les conflits, gérer les difficultés, être là quand ça déraille un peu au niveau justement de la relation humaine entre les différents acteurs. Donc, des fois, ça peut être assez épuisant. Moi, j'ai différents secrets. Mon premier secret, c'est de ne pas trop travailler. Ça peut paraître bête, mais voilà, j'essaie de m'organiser un rythme de travail, de prendre sur mes épaules ce que je peux prendre, de ne pas prendre trop de projets, de ne pas prendre trop de groupes de travail, de ne pas prendre trop de missions pour être sûre d'assurer ce que je peux faire et pas finir la journée en me disant « là, 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 il me reste 50 choses à faire ». 40 coups de fil à passer, je ne suis pas du tout, parce qu'après, on passe une soirée où on a trop de choses dans la tête, quoi. On a dans la tête déjà la souffrance des personnes qu'on peut accompagner, la responsabilité qu'on porte justement de la mise en relation de personnes avec des gens isolés. Donc, il faut que cette relation, elle soit bénéfique pour tout le monde. Donc, si elle ne se passe pas bien, c'est quand même de notre responsabilité. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses à porter. Et voilà, et que quand on est dans l'urgence, on fait pas le travail de manière qualitative, on prend pas le temps pour chacun et du coup on fait pas bien les choses. Donc moi, un de mes secrets, c'est ça, c'est de pas mettre trop de choses sur les épaules. Le deuxième, c'est d'avoir quelques collègues ressources avec qui je peux échanger, qui peuvent m'apporter des choses. Je sais qu'ils sont dispo en fonction de mes besoins, j'active l'un ou l'autre. Et ça me fait du bien. Et c'est pas forcément des collègues salariés, ça peut être aussi des bénévoles, être aussi des amis qui connaissent le travail social, le travail associatif et qui peuvent m'aider. Et puis ça fait du bien.
Super.
Pas très original.
Ah oui, bah c'est super. Ça t'appartient, en tout cas. Je J'ai une dernière question qui va permettre de finir notre discussion. Pour toi, c'est quoi oser la relation ?
Oser la relation, qu'est-ce que c'est pour moi ? Oser la relation, c'est garder sa spontanéité. C'est hyper important. Ne pas se prendre la tête dans la relation en disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ou en fonction de telle et telle personne, il faut que je sois comme ci ou comme ça. Non, c'est rester soi-même, rester spontané, rester frais, rester vivant dans cette relation, même si on se plante, même si on fait une gaffe. Enfin, voilà, pour moi, c'est hyper important de rester soi-même, de venir avec ce qu'on a apporté, ce qu'on est. Voilà, et puis oser la relation, c'est essayer de se défaire de ses clichés, de ses peurs. Pas se dire, oh là là, je vais dans la maison de telle dame, mais c'est tellement délabré, ça va être hyper glauque, je vais... Voilà, c'est essayer de s'extraire de ces peurs-là et de prendre ce qu'on trouve vraiment plutôt que de se mettre des barrières avec ses peurs.
Merci beaucoup, Morgane.
Merci à toi.
C'était vraiment très, très chouette de t'écouter, parler de tout ton métier. Et puis, j'ai l'impression aussi de cette passion du lien.
Bah oui, quand on est dedans, après, on a du mal à en sortir.
C'est ça, je crois. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à rebondir et à m'envoyer un petit message. Je suis intéressée de savoir ce qui t'a parlé et interpellé. Tu peux m'écrire à annepaul@osonslarelation.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Si tu veux en savoir plus sur Osons la Relation, tu peux t'inscrire sur le site www.osonslarelation.com. Tu recevras deux fois par mois une invitation à faire une pause et à t'inspirer. Enfin, partage à qui tu le souhaites ce podcast. Comme tu le sais si bien, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de créateurs, plus il y a de liens. En attendant de boire un nouveau verre ensemble avec un nouveau créateur de liens, je te donne rendez-vous le 5 dans ta boîte mail pour faire une pause café et découvrir une nouvelle inspiration. À très bientôt !